Juste avant de commencer, je voudrais très très brièvement rendre un hommage à M. Vaquier, puisque sa disparition nous a tous beaucoup touchés, et plus particulièrement, j'irais, à l'Institut Saint-Grégoire-le-Grand, puisque c'est à lui que nous devons d'exister actuellement, puisqu'après la première tentative de construction, enfin de mise en place de l'Institut Saint-Grégoire-le-Grand, suite aux événements que tout le monde connaît, 88, nous avions abandonné et je me retrouvais ici au prieuré le seul. Et M. Vaquier avait revu l'abbé Laurence et était venu me retrouver en disant « Il faut remonter votre institut ». Et c'est donc grâce finalement à ce, comment dire, ce petit coup de pouce que finalement on est parti, qu'on a recommencé à essayer de monter cet institut. Finalement il fonctionne. Et aujourd'hui, c'est grâce à lui, finalement, que nous sommes en train de faire ces conférences et de dispenser cet enseignement. Bien, voilà. Sinon, alors, ma conférence tombe dans une conjoncture, finalement, que je trouve assez, enfin, des coïncidences, si vous voulez, ou providentielles, comme on veut. Monsieur l'abbé Laurence avait terminé par, en conclusion, la notion de martyr. Or, si dans l'émission on parle de martyrs, effectivement, au XIXe siècle, il y a ce qu'il faut, notamment du côté de l'Asie et de la chrétienté du Vietnam. Et puis, il se trouve qu'aujourd'hui, dans mon établissement scolaire, un missionnaire dominicain est venu nous parler de la conquête de l'Amérique latine, en termes tout à fait d'ailleurs extraordinaires. Il est rare de rencontrer ça chez les dominicains actuellement. Dominicains, on dirait, rester dans le système. Et puis enfin, au moment où je reprends mon histoire des missions, nous sommes quand même la semaine où nous allons fêter le bicentenaire du premier martyr ci-devant aristocrate, comme diraient les révolutionnaires, Louis XVI. Louis XVI qui fut donc le premier martyr de la Révolution française pour des raisons religieuses. Vous le savez, il suffit de lire quelques documents et discours de révolutionnaires qui voulaient chercher à condamner Louis XVI, certains ont émis l'idée qu'il fallait condamner Louis XVI parce qu'il avait dit que s'il retrouvait son pouvoir, il rétablirait l'Église dans l'intégrité de ses droits. Alors un révolutionnaire a dit, pour cette raison-là, il faut le condamner, nous allons mettre ça comme motif au procès. Et un révolutionnaire a dit, vous êtes ridicule, vous voulez en faire un martyr, l'Église va le canoniser tout de suite. Alors trouvons autre chose. Donc on a trouvé le truc qui tue et qui passe bien d'ailleurs auprès des masses, à savoir le trait à la patrie, enfin tout, tu as fait tirer sur le peuple, tu as fait ci, tu as fait ça, tu es responsable, etc. Bon, vous connaissez la chanson, et bien finalement, j'allais dire, ça tombe bien. Ça tombe bien effectivement parce que la période de la fin du XVIIIe siècle, à la mort de Louis XVI, on peut dire que dans le monde entier, les missions sont mortes. Elles sont mortes, puisque le dernier soutien des missions, en quelque sorte, était le roi, puisque le trône protégeait l'autel. L'autel n'a plus de protecteur. Le roi Louis XVI mettait son veto. On l'avait appelé, on l'avait surnommé, n'est-ce pas, ironiquement, Monsieur Veto, mais la Constitution 1791 ne lui avait laissé que le droit de veto sur deux législatures, ce qui fait qu'un troisième passage d'une loi, impossible, évidemment, de pouvoir s'y opposer. Quels furent les trois premiers décrets de l'Assemblée des Girondins, n'est-ce pas, de l'Assemblée législative, au moment où donc cette constitution entre en vigueur, eh bien c'est d'une part le retour du frère du roi, d'émigration. Louis XVI, ça ne le dérange pas, donc il sait que son frère est majeur, il n'oppose pas son veto, donc s'il a envie de rentrer, il rentrera, s'il ne veut pas rentrer, il ne rentrera pas. Deuxième chose, évidemment le retour des émigrés, des nobles, et évidemment la déportation des prêtres réfractaires. Il oppose son veto. Vous savez ce que ça a donné et quels furent les résultats de la résistance de Louis XVI à ça, les fameuses invasions du palais, l'insulte du roi, ensuite la bataille, étant donné que la révolution sent qu'elle perd pied, eh bien, elle attaque l'Europe en créant encore un complot, à savoir que l'Europe veut détruire la Révolution, n'est-ce pas, les Autrichiens, alors on déclare la guerre, cette guerre est une défaite, on en accuse les prêtres réfractaires, religieux, tous les contre-révolutionnaires qui sont dans les prisons, et c'est les fameux massacres de septembre, dont d'ailleurs nos gouvernants ont été étrangement discrets à la rentrée de septembre 92, alors que nous en fêtions justement le bicentenaire de ces atroces tueries dans ces prisons. n'est-ce pas? Vous aviez le psychopathe sanguinaire Marat qui, au club des Cordeliers, ne cessait de tempêter, il faut 1000 morts, 2000, 3000 têtes, 10 000 têtes, 20 000 têtes tombent tout de suite, hein. On ne comprend pas d'ailleurs qu'à ce moment-là, il ne se soit pas mis à muter, qu'il n'y ait pas dedans Dracula qui lui soit poussé. Bon, bref. Alors, effectivement, dans ce contexte-là, on comprend, les prêtres réfractaires sont pourchassés. Et ces prêtres réfractaires, eh bien, certains sont déportés, certains s'exilent, et puis d'autres sont cachés par des familles qui, à leur risque et péril, savent très bien que s'ils sont découverts avec un prêtre réfractaire chez eux, c'est évidemment la guillotine. Il n'y a pas de procès. Vous savez que selon la loi des suspects de 1793, toute personne suspecte d'être suspecte, eh bien, est condamnée, puisqu'elle est suspecte d'être suspecte. C'est ça son seul crime, hein. Donc, à partir du moment où vous êtes un suspect, eh bien, vous terminez la guillotine. Vous êtes forcément un contre-révolutionnaire. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, finalement, les missions vont repartir de différentes manières. Le feu couvre sous la cendre. Alors, je vais vous prendre quelques exemples, parce que c'est à travers ça, finalement, qu'on comprend beaucoup mieux. Je prends ici, à Lyon. À Lyon, il y a Écully, une petite école, avec l'abbé Belay. Et cet abbé Belay a quelques enfants de famille catholique qui sont là, qui l'éduquent. Petite école de paroisse, au début du 19e, après la Révolution. Ces enfants, il y en a un qui s'appelle Loras, petit Loras. Son camarade de classe, c'est Jean-Marie Vianney. Et ce Jean-Marie Vianney, il a un mal fou à apprendre son latin. Alors le petit Loras l'aide à apprendre son latin. Et Jean-Marie Vianney va devenir évidemment le saint curé d'Ars, mais déjà jeune, ses camarades remarquaient qu'il était extraordinaire. Et le petit Loras, qui a aidé le petit Vianney, sera le grand évêque de la Louisiane, la Nouvelle-Orléans aux États-Unis. Non, excusez-moi, c'est pas la Nouvelle-Orléans, c'est Monseigneur Blanc. Ça sera plutôt beaucoup plus au nord, vers le Missouri, là. Hein, je vous en parlerai tout à l'heure. C'est extraordinaire. On a là des foyers, n'est-ce pas, où finalement la foi a été sauvée. Ce sont des tout petits foyers, mais ça va donner, quand ça va se réveiller, ce feu qui couvre sur la cendre, ça va être extraordinaire. Et évidemment, le petit Vianney, vous savez, sa mère avait caché, ses parents avaient caché un prêtre réfractaire, il avait fait sa communion dans une cuisine, etc. Donc on voit là, finalement, cette grâce divine agir, n'est-ce pas? Bon, ça c'est un cas. Autre cas, bien sûr, ce sont tous ces prêtres de l'Ancien Régime qui ont fui la France. Nous ne sommes pas là pour, et je ne suis pas là pour les juger. Certains, certes, ont vu le vent tourner et sont partis. Manque de courage, peut-être, mais ce n'est pas à nous de juger au fort interne. Ce qui est vrai, c'est que certains avaient une responsabilité, peut-être, dans comment dire, le fait qu'au XVIIIe siècle s'était développée cette philosophie des Lumières et ce manque de foi, véritablement. Eh bien, certains vont se réveiller. La foi, chez certains, va se réveiller, surtout en Angleterre ou dans les pays protestants, où ils voient des protestants qui sont dynamiques sur le plan missionnaire. Ça les réveille. Ils disent, mais nous, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on est? On s'est laissé aller? Non. Alors, c'est de là que repart cette idée missionnaire chez certains. Et on a le cas, par exemple, chez Monseigneur de Fort-Benjanson. Chez pas mal de prélats qui reviennent et puis qui ont l'idée de dire, bon, allez, il faut reconstruire quelque chose, partir en mission, les protestants sont en train de nous prendre de vitesse. Et il y a un autre aspect qui joue, c'est que, étant donné que la France est devenue un petit peu maintenant la patrie du diable et que l'on ne peut plus faire grand-chose, il y a bien Napoléon. Mais Napoléon joue une politique qu'on pourrait dire d'hypocrite. Il faut avoir les catholiques, donc évidemment, pour avoir les catholiques, il faut composer avec eux, donc on a un concordat. Et bien sûr, l'Église n'a pas de poids dans les universités, mais enfin, on rétablit des aumôneries. Et puis, au niveau des missions, eh bien, Napoléon essaye de reconstituer, c'est vrai, les trois grandes congrégations missionnaires de l'Ancien Régime, les missions étrangères de Paris, les Pères du Saint-Esprit et les lazaristes, ce qu'on appelle la congrégation de la mission, qui est le vrai nom, hein. Bon, lazariste, ça vient de l'endroit où il s'est installé, Saint-Lazare. Et évidemment, il veut les fondre en un. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas avec Rome. Et puis finalement, tout tombe à l'eau. Tout tombe à l'eau et on en reste là. Il faut attendre 1814-1815 pour qu'enfin la sacrée congrégation de la propaganda fide, se reconstitue, à savoir le ministère, tout simplement, des missions extérieures, le ministère qui avait été créé et fondé après Saint-Pie V, pensée par Saint-Pie V et qui avait été préparée, la propagande, tenue par le préfet de la propagande, qu'on appelle le pape rouge, par opposition donc au pape lui-même. Et puis vous avez le pape noir, c'est le général des jésuites. Il y a toujours d'ailleurs des coups de dents contre les jésuites, même en mission. Hein. J'avais déjà raconté ça à certaines occasions, mais vous savez ce que les franciscains pensent des jésuites, c'est pas très gentil. C'est un franciscain qui rencontre un jésuite qui rencontre un franciscain, et le jésuite dit au franciscain, c'est des ignares, c'est franciscain, dites-moi mon frère, savez-vous à quelle heure est né l'enfant Jésus? Un franciscain qui regardait éberlué, qui dit, mais qu'est-ce qui me sort, jésuite, français, que c'est des gens intelligents, mais il me sort en ânerie. À quelle heure Jésus est né? Alors quand même, le franciscain a bon sens, et puis il dit, bah, écoutez, mon père, je ne sais pas quand est né, à quelle heure est né l'enfant Jésus, mais il y a une chose que je sais, c'est que lorsque l'enfant Jésus est né, il s'est retourné à gauche, il a vu l'âne, il s'est retourné à droite, il a vu le bœuf, il a dit, c'est ça la compagnie de Jésus. Bon, bon, voilà. Non, puisque les jésuites avaient... Bon, passons. Alors, justement, j'en arrive à... au début du 19e sera reconstituée la compagnie, bien sûr, de Jésus. Les jésuites vont à nouveau pouvoir, comment dire, vivre relativement en paix. C'est vrai qu'en France, lorsque on a comme ministre de l'Intérieur Fouché, Fouché dort mal, dort très mal parce qu'il a la peur du jésuite. C'est devient une phobie chez lui. Chaque fois qu'il voit la congrégation Les Pères du Saint-Esprit, ceci, c'est des jésuites cachés, c'est des jésuites déguisés, c'est des jésuites, il en voit de partout, il en est malade. Et ces jésuites, ils ont toujours rendu malades ces anticléricaux. Ils ne peuvent pas les supporter. Pourquoi? Parce que c'est le fer de lance de la papauté. Et comme ce sont des gens très intelligents, si on les laisse se répandre à nouveau, ils sont dangereux, vous comprenez. Ce sont... Alors, bon, quoi qu'il en soit... les ordres commencent finalement à ressortir. Et puis, il y a aussi un fait intéressant, c'est Chateaubriand. Alors, vous allez me dire, Chateaubriand, c'est quand même pas une référence. Je suis d'accord avec vous. Mais, je fais juste un petit saut en arrière. Excusez-moi. Mais c'est pour expliquer Chateaubriand. Quand vous avez un abbé rénal, jésuite défroqué, qui vous dit dans son ouvrage, comme la prétendue histoire philosophique des établissements des Européens dans les deux Indes, en 1771, que les missionnaires sont des aventuriers fanatiques, instruments de colonisation, agents du despotisme et des cruautés de la race blanche au détriment du bon sauvage, enfin bref, on en passe, c'est des meilleurs, on comprend que Chateaubriand, lorsqu'il revient d'Amérique et qu'il parle des missionnaires, et que son discours est exactement l'inverse, on comprend que d'un point de vue médiatique, c'est quand même un travail de salubrité, finalement, c'est un travail de salubrité. Et il y en a beaucoup qui ont découvert une vocation missionnaire en lisant Chateaubriand. Donc je pense que le ciel a dû lui compter ça lorsqu'il a dû arriver là-haut, hein, dans ses ouvrages. C'est vrai, Chateaubriand, lorsqu'il a écrit ce qu'il a dit, ce qu'il a vu sur les missionnaires, il l'a écrit comme ça dans ses ouvrages. Et à ce moment-là, beaucoup se sont passionnés pour ses missions. Il était temps, hein, parce que comme je vous l'ai dit, ses missions étaient en ruine, mais absolument en ruine. Hein. Il ne restait plus rien. Et il était temps que ça reparte. Ça a beaucoup de mal à repartir, beaucoup de mal. Parce que pour qu'il y ait un véritable démarrage, il faut attendre 1840. Mais alors avant? Avant, il y a deux diocèses qui sont très dynamiques. Le diocèse de Rennes, alors moi je vous parle de ce que je connais, à savoir, enfin tout du moins de ce que nous savons sur point de vue histoire des diocèses. Il y a très très peu d'études faites par diocèse concernant l'histoire des missions. Il y a une étude qui a été faite par l'abbé Joseph du diocèse de Rennes, il y en a une autre qui a été faite sur Besançon, il y en a une autre qui a été faite, je crois, est-ce que c'est le diocèse de Lille, je ne sais plus, et puis la quatrième, ben, c'est celle que je suis en train de faire, sur le diocèse de Lyon. Il y en a très peu, donc on ne peut pas comparer, on ne peut pas beaucoup comparer, il faudrait véritablement que un certain nombre se plonge là-dedans, mais ça suppose de dépouiller des milliers de biographies de missionnaires et des tonnes et des tonnes et des tonnes d'archives. Le travail dont je vous parle représente 6 ans de travail, soit 3000 lettres, enfin je peux pas vous dire, c'est effarant pour arriver à pouvoir saisir quelque chose. Donc ce que je vais vous dire, c'est très limité. Alors le diocèse de Rennes est un diocèse important, et c'est vrai que très tôt des missionnaires partent, mais le père Joseph Michel a constaté que finalement le véritable démarrage était vers 1840. Le démarrage à Lyon est très tôt, en fait 1815, 1816, 1817. Pourquoi? Parce que un évêque de la Louisiane, Monseigneur Dubourg, passe et est allé se faire sacrer à Rome, puisqu'il vient d'être nommé évêque, je vais pas vous dire de bêtises, en Louisiane. Et quand il revient de Rome, il passe à Lyon. Et à Lyon, il passe au séminaire Saint-Irénée. Or, au séminaire Saint-Irénée, il y a eu, juste avant, il y a eu à Lyon un cardinal de la Sainte Église romaine qui est connu, qui s'appelle le cardinal Fesch. Or, le cardinal Fesch, contrairement à certaines légendes, est un véritable homme d'Église et a réorganisé le séminaire Saint-Irénée de façon tout à fait remarquable. Une formation d'élite. Il voulait un clergé d'élite. Il fallait tout reconstruire après. Quelles que soient les faveurs, et encore, les faveurs de Napoléon pour le tonton, c'était un cardinal. Hein, donc l'anticléricalisme fonctionnait, même si c'était un membre de la famille. Ceci dit, le cardinal Fesch a fait un travail tout à fait remarquable. Et c'est lorsque Mgr Dubourg passe, il est écouté par ces jeunes séminaristes. Il est écouté par ces jeunes séminaristes. Et il parle de ces Indiens qu'il faut aller évangéliser. Il faut partir là-bas, il y a du travail. Et il y en a qui sont enflammés et qui partent tout de suite en 1816, 1817, 18. Et le début, si vous voulez, des missions pour notre région, finalement, c'est à cette époque-là. C'est-à-dire du côté, tous ces prêtres séculiers du séminaire Saint-Irénée qui partent du côté de l'ancienne Louisiane et qui vont se répandre aussi bien en Louisiane qu'au Texas. Il faut savoir que tout le Texas, jusqu'au 19e siècle, ce ne sont que des évêques forésiens et lyonnais qui se sont succédés sur les trônes épiscopaux. C'est le premier, Mgr Audin de Montbrison, un forésien, hein, suivi par un autre forésien, ainsi de suite. Tout à fait remarquable. Leur œuvre est une œuvre de reconstruction de l'Église. Donc, on reconstruit l'Église parce que le Texas était dans les mains des Espagnols. Il n'y a plus d'Espagnols, ils ont été chassés. Les Américains arrivent progressivement, les Américains s'installent, les Américains c'est l'WASP, hein, White Anglo-Saxon Protestant, ils s'installent, l'aspect religieux ne les intéresse pas. Ceci dit, ils sont relativement tolérants vis-à-vis des missionnaires. Même, il y a même des protestants qui participent à la construction des églises et des chapelles. Il y a des conversions, mais il faut dire que les missionnaires en question qui venaient n'étaient pas des chiffres molles. Hein. C'était d'abord d'une part des gaillards costauds, parce qu'il fallait résister. Quand vous attrapiez la fièvre jaune, il y en a qui en sortaient, mais il y en a qui en ressortaient pas. Et en plus, on envoyait les sujets d'élite là-bas. Ceux qui voulaient partir, c'était vraiment ceux qui, pour employer un langage très à la mode, on dirait ceux qui avaient la pêche. Hein. Bon, ils arrivaient là-bas, il fallait en vouloir. Et il y avait tout à reconstruire. Il fallait reconstruire les églises, il fallait rebâtir les chapelles, il n'y avait plus rien. S'occuper des populations espagnoles qui étaient là en attente de prêtres. Essayer de convertir, bien sûr, les protestants. Convertir les Indiens. Alors, les Indiens, c'est tout à fait remarquable. Ces Indiens, ces Arkansas, ces Kapawasson, ces Sioux, c'est bon, il y en a. Et alors, lorsque Monseigneur le Père Audin, préfet apostolique, devenu ensuite vicaire apostolique, je précise, le vicaire apostolique, c'est, si vous voulez, une dignité. Il a reçu la consécration épiscopale, mais ce n'est pas un évêque. Il ne dirige pas un diocèse. Il a la consécration épiscopale, mais il est considéré... pas tout à fait comme un évêque, c'est un territoire de mission. Alors le jour où le territoire de mission est constitué, construit, qu'on le divise, etc., on estime qu'à ce moment-là, on l'érige en évêché, c'est Rome. Mais il y a les vice-préfectures, il y a les préfectures apostoliques, il y a les vicariats, l'évêché, etc. Donc ça, c'est l'évêché arrive quand on a finalement établi ce qu'on appelle la hiérarchie hein, de l'Église. Tant qu'il n'y a pas de hiérarchie, on est en pays de mission. Donc condition de mission, hein, juridiction de mission, en quelque sorte, le vicariat. Donc ce vicaire apostolique, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il marche. Le vicaire apostolique, il est pauvre, comme Job. Il court, il marche, des soirs, il va manger, il s'arrête, il va frapper une porte, c'est des protestants. Et puis on parle. Et puis il y a des conversions, et ainsi de suite. Une fois, il se trouve donc avec des Indiens Arkansas. Le chef Arkansas arrive, l'embrasse, toi, mon frère, mon père, la robe noire. Il les appelait comme ça, père la robe noire. Viens là, viens nous parler du grand esprit. Viens nous montrer ton grand esprit. Fais descendre le grand esprit sur l'autel, etc. Alors tous, ils assistent à la messe, ils se mettent à genoux, etc. Tous avec leurs plumes, leurs bazars, ils sont là, ils écoutent, etc. Envoie-nous des prêtres, envoie-nous des religieuses, envoie-nous des... Bon. Et puis, il y en a un qui fait une confidence, justement, le chef fait une confidence au père. Il lui dit, tu vois, moi je veux dire quelque chose. Eh bien, lorsque les Espagnols sont venus, nous leur avons donné des terres. Arkansas, C'est donc nous, Arkansas, nous leur avons donné des terres. Les Espagnols ont été bons avec nous, ils ont été gentils. Ils nous ont aidés, ils nous ont aimés. Lorsque le Français est venu, nous lui avons donné des terres aussi, on lui a permis de s'établir chez nous. Il nous a aimés, il nous a aidés. Et l'Américain est venu, on lui a donné des terres, puis il nous a tout pris le reste, il nous a chassés. Ah, c'est net. Alors d'ailleurs, je fais une incise ici, parce que lorsque la propagande protestante américaine se permet de donner des leçons à propos de son melting pot et de sa société multiraciale et culturelle qui a raté, ils sont en train de s'effondrer, ils n'ont aucune culture ces gens-là, et qu'ils ont utilisé cette propagande et qu'ils ont sali les Espagnols, quand on pense que chez eux il n'y a plus d'Indiens, il ne reste plus rien, qu'aujourd'hui il y a plus de 50 millions d'Indiens en Amérique et que c'est la seule civilisation qui a pu proposer une colonisation vraie avec un véritable métissage, alors que le WASP est un raciste, ni plus ni moins, un véritable raciste. Pour lui, l'Indien, on le pousse, on le tue avec l'alcool, le feu, on prend ses terres. Le cow-boy, c'est un bandit, ni plus ni moins. Le shérif, c'est un bandit. Quand les Espagnols sont arrivés en Espagne, ils ont immédiatement instauré des lois de protection des Espagnols. Prenez tous les documents, que ce soit Christophe Colomb, c'est l'aide de mandat d'Isabelle la Catholique, on arrive là-bas, c'est une colonisation réglée d'avance. Alors que là, c'est ni plus ni moins une progression anarchique, de gens qui arrivent prétendument persécutés par les vieilles monarchies catholiques et autres d'Europe et qui s'instaurent là-bas et qui se comportent comme des monstres vis-à-vis de ces Indiens. Il n'en reste plus rien. Un jour, il y a un Indien qui a porté, des chefs indiens qui avait été reçu par Roosevelt. Il porte un toast à la fin du repas. Et il porte un toast à l'Amérique, par politesse, et puis à la fin, il dit « Mais je vais porter un toast aussi à nos pères la robe noire. » Nos pères la robe noire. Il dit « Oui, parce que vous comprenez, lorsque l'Américain, il vient, il nous donne des couvertures, peut-être, mais ces couvertures, il y a l'herbe qui passe à travers, et on voit le soleil, on peut regarder le soleil, mais lorsque le missionnaire nous donne une couverture, on ne voit rien à travers. Hein. » Ils ont un langage imagé qui est absolument délicieux, mais qui se passe de commentaires. Bon, donc finalement, voyez-vous, ce départ vers l'Amérique, et cette reprise de mission vers l'Amérique, on monte vers la Louisiane, etc., et là d'ailleurs les Français, ce sont les Français, hein, c'est le réveil missionnaire de la France qui est absolument extraordinaire. La France est vraiment le grand pays de mission, Je crois qu'on pourrait le prouver avec toutes les monographies diocésaines qu'on ferait par rapport aux autres pays. Je crois qu'on a des pays les plus dynamiques. Avec Lyon, il y a déjà près d'une centaine de vicaires apostoliques et évêques qui sont partis et qui ont redéveloppé les missions aussi. Bon, alors, ça c'est du côté de l'Amérique. Au début du siècle. Hein. Vous avez bien sûr du côté de l'Inde. Ancienne mission du patroado portugais. Là, en Inde, c'est un évêque, dont le nom est connu d'ailleurs, parmi les historiens de la mission, mais qui est un Lyonnais, qui est issu du diocèse de Lyon, Monseigneur Bonan. Et Monseigneur Bonan relance le mouvement missionnaire en Inde, dans les missions de Pondichéry, du Madurai. Il fait rappeler les jésuites. Il a un culot phénoménal, il fait rappeler les jésuites. Eh bien, il faut le faire. Et les jésuites partent. Et là-bas part un jésuite qui s'appelle le père Perrin, de la famille de Pauline Jaricot. Ce père Perrin, il y a des réseaux fabuleux là, hein, c'est extraordinaire. Et ce père Perrin, eh bien, il va, comme l'Église, la propagande un peu reprend le pas sur les territoires du patronat portugais qui s'est effondré, qui a eu son heure de gloire et de mérite à une époque, mais bon, il n'y a quasiment plus rien, sachant qu'en plus, le Portugal était devenu un pays avec Pombal et qui était à la solde évidemment des idées des Lumières. C'est Pombal qui avait fait pénétrer ces idées Lumières et qui a fait supprimer d'ailleurs les réductions jésuites, les jésuites, etc. Donc il faut reprendre ça. Alors, si vous voulez, la propagande à travers Monseigneur Bonan, eh bien, reprend ces territoires. Alors évidemment, il y a des prêtres qui refusent. Alors il y a ce qu'on appelle le schisme de Goa, le schisme des Goanais, qui était l'église, cette vieille église portugaise de l'évêché de Goa. Alors le père Perrin, eh bien, véritable missionnaire zélé, puis alors avec une force de conviction extraordinaire, eh bien, arpente son district. Et puis il convertit Il convertit, il part à cheval. Bon, une fois, il tombe de cheval. Je sais pas, les trois quarts du temps, ils savent pas faire du cheval. Alors, il faut bien se débrouiller. Alors, il monte sur un cheval, il tombe. Il a un membre à moitié démis, il remonte à cheval. Il, tant pis, ça tiendra, ça tiendra, ça tiendra. Bon, etc. Une autre fois, il se tord une jambe. Une autre fois, il manque de se noyer. Une autre fois, bon, c'est terrible. C'est bon, on convertit. Et puis, à la fin, finalement, il arrive à obtenir quasiment la conversion de ces... à les ramener, finalement, dans le giron de l'Église. En développant quoi? En faisant des processions, et surtout des processions on va revenir... du Vendredi Saint. Ça y est, chemin de croix. Bon, j'attendais une aide, monsieur l'abbé. Mais, bon, j'avais un mal fou à retrouver. Bon, chemin de croix, qui fait chemin de croix dehors, n'est-ce pas? Et lui-même avance à genoux. Et puis, à chaque fois que le Christ tombe ou qu'il y a des lourds, il se donne la discipline. Alors, évidemment, tous ces gens se mettent à pleurer, c'est pas possible, mais il va se mettre dans quel état, le pauvre père? Et à la fin, quand il a fini, c'est bon, il passe au confessionnal. Tous! Il en a jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin, mais ça fait rien, ils passent tous. Hein? Et comme ça, il arrive à reconquérir comme ça. Incroyable. Une fois, il passe dans un village avec quelques deux ou trois autres prêtres qui l'aident à cheval. Et c'est une fête païenne. Il décide, il y en a qui lui disent, mon père, faudrait peut-être passer à côté, vous comprenez, il faudrait pas passer au milieu. On passe au milieu, père Perrin, on passe au milieu, ah bon. Et on chante le Salve Regina, ou un chant à la Vierge, dans la langue du secteur. Ah bon. Alors on se met à chanter, il passe, tout le monde s'écarte, on est en quand même, il y en a qui ont peur, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est passé, puis tout d'un coup, il y a un des prêtres qui tombe de cheval, qui se tord de douleur. C'est affreux. Et tous nos païens de se retourner, de se dire, regardez, regardez, il a été puni par nos dieux. Il a osé passer, il a profané. Le père Perrin dit, non, ça ne peut pas se passer comme ça, c'est pas possible. Et le père Perrin descend de cheval, il se met à genoux, il étend les bras en croix, puis il dit, mon Dieu, c'est pas possible, vous ne pouvez pas les laisser triompher. Alors je vous en supplie, faites quelque chose. À ce moment-là, les douleurs s'arrêtent, net, et il remonte en cheval, tout va bien. Alors là, les païens, le sifflet coupé. Et plus rien. Hein, et on s'en va. Bon, voilà le père Perrin. On a testé qu'il avait fait des quantités de miracles. Bon, alors voilà, reparti, évidemment, ces missions, donc, de l'Inde. Mission de l'Inde, ma durée. Bon, j'y reviendrai tout à l'heure au niveau du déclin des missions. Continuons, que je continue de faire un tour. Les missions du Levant. Beaucoup plus tardives, les missions du Levant. Ce sont des missions de soutien. Face à l'islam, vous savez, il est très très difficile d'y aller de face. On sait que de toute façon, on terminera martyr. Alors, les jésuites partent. Alors, les capucins, les jésuites vont au Levant, ainsi que les frères d'ailleurs des écoles chrétiennes, les frères maristes, et ouvrent des écoles. C'est l'apostolat qu'ils vont essayer de faire, c'est d'ouvrir des écoles. Et dans ces écoles, d'accepter un certain pourcentage, éventuellement, de musulmans ou autres, et de dispenser un enseignement, donc l'enseignement catholique, catéchiste, etc. Vous suivez pas, vous partez, enfin, vous faites comme vous voulez. Mais voilà, et ils obtiennent des conversions. Au fond, même, d'ailleurs, constituent même ces frères, ces prêtres, ces des mouvements de jeunesse pour essayer d'être missionnaires à l'extérieur. Hein. Sur la fin du siècle. L'autre aspect de cette mission, c'est les jésuites avec la fameuse université de Beyrouth, fondée par un Lyonnais. L'université de Beyrouth, donc Saint-Joseph de Beyrouth. Cette université a embauché des quantités de jésuites qui furent des savants, des grands savants très connus. Le père Poitbard, qui a découvert l'importance de la photographie aérienne pour l'archéologie. En plus des, alors évidemment, comme chez les jésuites, c'est un peu les aristocrates de l'Église, on trouve bien sûr des noms de familles aristocratiques lyonnaises, de Gerfagnon, Dupré-Latour, etc. Donc de très très grandes familles. Ce sont des savants, ils parlent de ce sont des savants, mais pas à vocation missionnaire. On est là, c'est une présence. Face finalement à l'islam et face en même temps aux protestants américains qui étaient présents depuis le milieu du 19e siècle et qui faisaient leur propagande. Et comme les jésuites, notamment le père Monod qui a fondé cette université, en a conçu une humiliation terrible en disant c'est pas possible, il faut quand même montrer que nous les catholiques, nous aimons la science, que nous sommes des gens. Alors il a fondé cette université. Donc voilà cette mission. De ce côté-là. Il y a bien sûr aussi la présence des Pères Blancs, mais j'en parlerai beaucoup plus du côté de l'Afrique du Nord. Continuons. Eh bien, venons-en maintenant. Attendez, je suis en train de passer tous les grands secteurs de mission. Autre secteur, l'Amérique latine. En Amérique latine, c'est pareil. C'est comme un petit peu en Inde, c'est une reprise des missions du patronat espagnol. Donc essayer de reprendre cette place vide. On envoie alors quelques ordres vont s'installer là-bas, les Salésiens de Don Bosco d'ailleurs, notamment du côté du Mato Grosso au Brésil. Vous avez aussi les Pères du Saint-Esprit. Le père Lieberman part avec des missionnaires pour voir s'il peut évangéliser l'Amazonie. Et puis les Rédemptoristes de Lyon, beaucoup plus tardivement d'ailleurs. Fin du siècle, début même 20e siècle, vont s'installer là-bas. Il y en a un qui est extraordinaire, là aussi, c'est un prêtre d'origine lyonnaise, Pierre Quiblier. Inoubliable. C'est un véritable bout en train qui a parfaitement compris la spiritualité latino-américaine. Ils aiment beaucoup les flonflons, la musique, etc. Alors, il arrive, qu'est-ce qu'il fait ? Les grandes processions, alors des hôtels, c'est... On dirait chez nous, c'est de fort mauvais goût, mais pour eux, c'est de très bon goût. Il y a de la couleur, il y a toutes les couleurs. On fait ça, il découpe des choses, il fait des anges, des angelots, enfin tout, même les enfants, on déguise, etc. On fait des grandes processions, et ça marche, on suit. Et puis, il fait des prêches. Et une fois, justement, il arrive dans une paroisse, il doit faire un prêche. Le prêtre est désolé, il n'y a personne. Alors, le père Quiblier dit, qu'en cela ne tienne. Rassemblez-moi quelques enfants que vous avez. Bon, il rassemble quelques enfants, il met des cierges, prend l'encensoir, quelques personnes qui sont là, il dit on va dans la rue. Puis arrive dans la rue, il balance alors l'encensoir, hein, on se met, puis il se met à chanter, etc. Les gens sortent, regardent, qu'est-ce que c'est que ça, il y a longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Alors ils sortent, ils se mettent derrière, on rentre dans l'église, il n'y avait plus de place. Il n'y avait plus de place, les gens montaient en haut, s'installaient partout. À la fin, il a confessé. Des centaines de confessions, ahurissant. Une autre fois, il est averti qu'il y a. Une autre fois, il fait une procession. Et puis il passe devant un bar. Dans ce bar, il y a les trois tenanciers qui sont des débauchés, dont d'ailleurs le responsable vit en concubinage avec une femme. Ils ont eu un enfant. Et en passant, je ne sais pas ce qu'il y a, il y a des moqueries. Le père Quiblier s'arrête. Il arrête tout, la procession. Il les regarde. Ah, il demande ce qui va se passer. Et il leur dit... je vous adjure de vous convertir, sinon le châtiment de Dieu va vous tomber dessus sans tarder. Et il n'aurait jamais pu imaginer, le père Quiblier, que le ciel allait prendre au mot. Quelques semaines ou mois après, je ne sais plus si c'est 3 semaines ou 3 mois, enfin ça ne traîne pas, le bar ferme, la tenancière est devenue folle, elle a fait retirer son enfant et mis la clé sous la porte. Il y en a un qui, lui, il est devenu fou. Et l'autre, je ne sais pas ce qui est arrivé, il est mort foudroyé. Ça a jeté un tel froid que vous imaginez la suite dans la ville d'une telle affaire. Hein. C'est la chapelaine et l'église, habituellement vide, s'est retrouvée subitement fréquentée. Bon, voilà ce cas. Cas évidemment donc typique de cette religiosité latino-américaine. Hein. Et je disais d'ailleurs tout à l'heure, donc aujourd'hui est venu un prêtre dominicain qui est missionnaire là-bas du côté du Mexique et qui nous montrait comment il avait réussi à rétablir auprès de ces Mexicains C'en est un qui est venu le trouver, un catholique qui avait pratiqué la charité qui avait voulu instaurer un système de charité, d'entraide entre eux, et le gouvernement l'avait arrêté en le qualifiant de communiste. Je ne sais trop quoi. Et bon, finalement, il a été relâché et il est venu trouver le prêtre en lui disant, voilà, il faut faire une procession de la passion vivante, etc. Alors le père lui a dit, oui, c'est entendu, mais pas du spectacle. Vous y participez activement, religieusement. Il dit, sinon, moi, je ne le fais pas. Alors il a dit, d'accord. Et ils ont organisé ça, c'est extraordinaire, sur plusieurs jours. Alors il y en a un qui fait le Christ, bien sûr, qui porte la croix. Ça dure plus de 8 heures dans la journée. Ils montent sur une montagne, on va le mettre en croix, ils redescendent après, il y en a qui s'occupent de la nourriture, il y en a qui s'occupent de... Ça dure même plusieurs jours parce qu'ils se transportent dans d'autres endroits, la région. Et finalement, ça a duré. Et ce missionnaire expliquait, c'est ça qu'ils aiment, c'est ça leur foi. Il dit, c'est par là qu'on est missionnaire, parce qu'il y en a qui sont attirés par ce spectacle, qui ne viennent pas à l'église quand même, mais on ne sait pas, un jour la grâce de Dieu peut agir. Et certains prêtres avaient voulu qu'ils suppriment absolument ça en disant, non, c'est pas... et finalement, il a maintenu. Il a maintenu. Ça fait partie de ces rares missionnaires qui tiennent encore quelque chose, hein, si l'on peut dire. Bon, j'ai fait donc le tour de ces quelques pays de mission. Donc, l'heure avance, j'ai encore pas mal de choses à vous dire. Ce que je voulais maintenant dire, je voulais... Bon, il y a l'Afrique, bien sûr. L'Afrique, c'est un pays qui s'ouvre au 19e siècle, excusez-moi, qui s'ouvre évidemment à l'Europe, tout du moins c'est l'Europe qui va pénétrer en Afrique par les grands chercheurs, notamment les Pères du Saint-Esprit, par le Sénégal. Bon, tout le monde connaît bien sûr Savorgnan de Brazza, Stanley, c'est l'anglais, le protestant, Savorgnan de Brazza, c'est le français, le catholique. Et Savorgnan de Brazza, après avoir remonté, n'est-ce pas, le Congo, vient trouver un missionnaire, le père Cary, un lyonnais. Et le père Cary a comme subordonné le père Augouard. Le père Augouard, ça sera le futur monseigneur Augouard de l'Ogoué, n'est-ce pas, et au Congo, qui est devenu célèbre, un caractère de cochon. Ce monseigneur Augouard. Mais le père Cary, qui va devenir monseigneur Cary, a un caractère de cochon aussi. Mais des missionnaires remarquables, remarquables. Des caractères qui se frottent, mais il faut dire que pour là-bas, il fallait résister. Hein. Il fallait résister à tout. C'est ce que disent ces missionnaires. Hein. Il faut imaginer. Hein. On est loin de tout, on est là, on est tout seul, on se bat. On se bat contre quoi? Bon, on se bat contre les crocodiles, on se bat contre les populations, on se bat contre tout. C'est très dangereux. On peut terminer à la marmite, découpé en morceaux et terminé. Il y a toute possibilité. Et même les lions. Et même les lions. Hein, et un missionnaire, un jour, il s'est trouvé dans la savane en face d'un lion. Il dit, comment je fais? Il dit, c'est pas possible, il faut que je m'en sorte. Comment je fais? Et il regarde dans son manuel des missions étrangères, hein, il dit, non, c'est pas, ce cas-là n'est pas prévu, hein, il faut que j'improvise. Alors, il se tourne vers Dieu, il dit, mon Dieu, donnez-lui des sentiments religieux. Alors, à ce moment-là, il voit le lion qui s'agenouille, qui fait son signe de croix, et qui dit, mon Dieu, bénissez le repas que je vais prendre. Hein, et il bouffe le missionnaire. Bon, alors, les Pères du Saint-Esprit, il y a bien sûr du côté du sud, au Natal, où vont s'installer les Oblats de Marie Immaculée de Mgr Masneau, qui ont donné tous ces missionnaires qui sont partis d'ailleurs au Grand Nord canadien, n'est-ce pas, s'occuper Inuk au bout de la terre. C'est remarquable comme aventure, mais aussi qui sont partis en Afrique au Natal. Et il y en a un missionnaire qui a fondé une véritable réduction au Natal, qui est allé chercher des Noirs. Il a fondé une véritable réduction à la manière des Jésuites, finalement. Et il a fait un travail fabuleux, puisque même quelques villages qui étaient sous la propagande protestante et que les protestants essayaient de tenir, sont venus, des jeunes filles sont venues trouver le père en question et lui ont dit « Père, acceptez-nous. » Parce que nous, on ne supporte plus notre pasteur. Ah bon? Pourquoi vous ne le supportez plus? Bah parce qu'il change sans arrêt de secte, enfin de religion. Un coup, il est chez les pentecôtistes, après il est là, après il est autrement. Vous comprenez, c'est un peu bizarre. Nous, on ne comprend pas. On a entendu parler de vous, on a entendu parler de votre travail, on vient chez vous. On veut se faire catholique. Hein? Bon. Comme quoi les voies du Seigneur sont vraiment impénétrables. Hein. Il suffit d'un pasteur girovague. Bon, cette Afrique, c'est tellement immense que j'ai même pas le temps de vous faire le tour de l'évangélisation de l'Afrique. Il y a bien sûr les Pères Blancs avec le cardinal Lavigerie. Je vous dirais que je suis très réservé sur la mission des Pères Blancs, parce que c'est une mission, non pas en Afrique elle-même, en Afrique noire, parce qu'il y a eu des martyrs, incontestablement, le Père Bouchamp, premier martyr. Il y a eu un travail remarquable, les Pères Blancs, auprès des fameux martyrs d'Ouganda, ces fameux pages du roi qui ont été brûlés parce qu'ils refusaient de se livrer à ce commerce de débauche auquel les obligeait le roi. C'est un travail de mission incontestable. C'est là où je suis plus réservé, c'est par rapport à leur travail face à l'islam. Parce que très vite, justement, on arrive à la fin du siècle et ensuite à ce déclin de la mission où on voit que finalement leur travail face à l'islam est plutôt un travail d'archéologie, d'étude de l'islam, d'écoute de l'islam, de l'attention de l'islam, tout en gardant bien sûr la foi. Mais aujourd'hui, malheureusement, ils ont perdu progressivement la foi et ils sont toujours à l'écoute de l'islam. Donc il y a là un problème. Et je vous dirai en quoi aussi, tout à l'heure, je suis un peu réservé par rapport à Charles de Foucault. Charles de Foucault, incontestablement, est un grand homme. C'est un, si l'on veut, veut un saint, mais par rapport à certaines écoles qu'il a engendrées. Je ne sais pas ce qu'aurait donné Charles de Foucault en vivant plus longtemps dans sa mission. On ne peut pas évidemment anticiper, ce n'est pas le rôle de l'historien. Mais je vous parlerai de lui à propos justement d'un autre personnage. Bon, je m'arrête sur ce tour d'horizon de l'Afrique. Ce que je voudrais aborder maintenant, beaucoup plus profondément, c'est justement les missions d'Asie. Les missions d'Asie parce que ce sont des missions qui me tiennent à cœur. Pourquoi ? Parce que l'un des grands saints lyonnais du 19e, c'est saint Jean-Louis Bonnard, de Saint-Christo-en-Jarret, des monts du Lyonnais, qui en même temps se trouve finalement dans la Loire, et qui a été canonisé en 1990 par le pape 90 ou 88, par le pape Jean-Paul II, au moment où il a canonisé les 117 martyrs du Vietnam, du Tonkin. C'est un martyr du Tonkin. Or, c'est une chrétienté qui a terriblement souffert. Vous ne pouvez pas vous imaginer, quand on se plonge dans les documents, quand on étudie cette chrétienté du Vietnam, c'est absolument terrible. C'est d'une cruauté, c'est épouvantable. Et non seulement ils ont été victimes de la tyrannie, de la xénophobie à l'époque mandarinale et impériale, mais sitôt que les empires se sont effondrés, c'est les communistes qui sont venus. Et les communistes, je peux vous dire qu'ils ont fait, ça a été atroce. Ça a été pire de toute façon que la persécution mandarinale. Alors, c'est quoi cette chrétienté ? Eh bien, c'est la fameuse chrétienté, bien sûr, du Vietnam. Alors, vous avez le Cambodge, vous avez donc toute l'Indochine avec le Siam, l'actuelle Thaïlande, le Laos. Et toutes ces chrétientés se développent, hormis le Vietnam, plus tardivement dans le 19e siècle. Ce sont encore, là d'ailleurs, des vicaires apostoliques lyonnais qui vont commencer cette évangélisation au Laos, au Cambodge, etc. Mais surtout du côté du Tonkin. Côté du Tonkin, c'est une vieille mission. Les vieux chrétiens du Tonkin, du Vietnam, sont des chrétiens qui sont échappés du Japon. Après la persécution terrible qu'ont infligé les Japonais aux chrétiens, c'est-à-dire aux premiers chrétiens convertis par, tout le monde connaît, saint François Xavier, bien sûr. Ils sont venus s'installer là et c'est une chrétienté très vivace. Il y a la Chine à côté, bien sûr, chrétienté de la Chine. La Chine, il y avait le diocèse de l'évêché de Pékin qui était un évêché du patronat espagnol. Et qui a tenu un certain temps et puis qui là donc était évidemment en perte de vitesse. Alors cette chrétienté du Vietnam est une chrétienté qui souffre perpétuellement. Parmi les grands évêques du Tonkin, il y en a un qui est très connu, c'est Monseigneur Rotor. Monseigneur Rotor est un vicaire apostolique originaire, encore une fois, de la région du diocèse de Lyon. Monseigneur Rotor arrive là-bas. Il arrive en pleine persécution. C'est les persécutions de Minh Mang, de Tuduc, de Thiotri, c'est-à-dire des empereurs qui sont résolument opposés au christianisme. Et en même temps, il y a, un mouvement de xénophobie. Alors tout chrétien est considéré comme un porc, comme une espèce de... C'est la religion du porc. C'est des gens qu'il faut chasser. Ce sont des barbares d'Occident, hein. Ici, ça se passe. Ce que j'ai là, c'est au. C'est en Chine plutôt. Mais c'est exactement la même chose. On voit d'ailleurs le Christ qui est crucifié avec des fléchettes, et puis on met des chrétiens en dessous qui sont en train de lécher le sang, etc. Vous voyez jusqu'à quel degré cela va. Donc ces édits impériaux les pourchassent. S'ils sont pris sur le territoire, ils sont mis à mort immédiatement. Ils sont immédiatement mis à mort. Ils doivent se cacher. Alors, Monseigneur Rotor est obligé de se cacher, bien sûr. Alors, on a tout démonté. On a caché les objets sacrés. On a démonté les chapelles. Et puis, Monseigneur Rotor se dit, ouais, mais on ne peut pas continuer comme ça. Ça fait trop longtemps que ça dure. Il faut quand même remonter cette église. Et il profite d'une période d'accalmie, petite période d'accalmie comme ça, où les édits ne sont plus tellement appliqués, pour tout ressortir. Mais il ressort tout, mais alors en force. Il se dit, c'est bon, d'accord, profitons, il y a une brèche, mais alors on sort en force. On sort. Alors on ressort tout, on remonte les chapelles, on remonte tout, et puis on se promène, mais alors c'est des véritables processions dans tous les villages, dans tous les villages. Enfants de cœur devant, avec la croix processionnelle, en surplis, tous les prêtres sont là, tous les chrétiens, et on défile. Les païens sont vraiment impressionnés. Ils disent, tiens, c'est le roi de la religion qui passe. un roi de la religion qui passe. Et on laisse faire. Et finalement, il y a des mandarins qui trouvent évidemment que, franchement, ils poussent... enfin, c'est allé un peu loin, quoi, que cet évêque a quand même du culot. Mais finalement, certains laissent faire. Certains laissent faire, pourquoi ? Bah, parce que finalement, on s'arrange avec eux. Un mandarin, ça se corrompt. Alors on le paye, on lui donne quelques ligatures. D'autres sont chrétiens, alors ils laissent faire. Ils sont chrétiens, donc favorables. Ils terminent décapités très souvent, quand on se rend compte qu'évidemment les édits ne sont plus appliqués. Bon, et puis il y a évidemment le mandarin honnête, le mandarin païen qui applique les lois. Alors lui, évidemment, ça, on rigole pas, quoi. Ça se termine, ses arrestations. Il y a, le Monseigneur Rotor reçoit un jour un jeune prêtre qui vient se mettre sous ses ordres et qui s'appelle Théophane Venard. Théophane Venard, il est de Poitiers, et ce jeune Théophane Venard arrive, et dans ses bagages, il arrive avec un petit orgue. Monseigneur Rotor est tellement émerveillé de voir arriver là qu'il le nomme grand. Allez, il avait monté un ordre de chevalerie bidon, mais il trouvait que ça donnait du courage. Alors il se donnait des grands titres comme ça, et puis ils essayaient de rigoler. C'est ce que disaient tous les missionnaires. Ils disaient avec Monseigneur Rotor, on s'ennuie pas. On est vraiment dans la situation la plus catastrophique qu'on puisse imaginer, mais au moins on rigole. Ben, c'était le seul moyen de tenir. C'était le seul moyen de tenir. Et finalement, il le donne grand je sais pas quoi, chancelier, chambellan de la musique, etc. Et son ordre s'appelle l'ordre des Gueusards. Je vous traduis pas le mot, vous m'avez compris. Encore un clin d'œil à la situation. Et puis finalement, alors ce cher Théophane Venard constate effectivement la situation. Il dit, merveilleuse, Rotor. Mais Théophane Venard, il a sa conscience un peu troublée. Il dit, quand même, c'est pas vrai, ça. Il y a des mandarins honnêtes. Et avec les mandarins honnêtes, bon, on termine à la casserole, bien sûr. Mais avec les mandarins malhonnêtes, on est obligé, on les paye. Il dit, est-ce que c'est très... Est-ce que c'est quand même... Est-ce que ça se fait, ça? Il pose la question. Ça le gêne, quand même. Il dit, finalement, ce sont des gens corrompus, et on participe à cette corruption en leur donnant des ligatures. Bon, ça gêne un peu. Bon, passons. Là-dessus, Monseigneur Rotor, un jour, est absent de son QG, son quartier général. Il revient, le quartier général est détruit. Son séminaire indigène est détruit. Le prêtre indigène qui tenait le séminaire est emmené en captivité. Et là, pour la première fois, ce que disent les missionnaires, ils ont vu ce géant de la mission, cet homme d'un courage inémoins qui riait dans les caissés, hein, s'effondrer complètement, comme foudroyé par cet événement, et se mettant à pleurer comme un gosse. Hein. Et puis finalement, bon, il reprend courage après, et il sera obligé de s'enfuir dans la montagne avec ses missionnaires, bien sûr, et de se cacher, d'aider comme il peut, et il mourra abandonné, enfin pas abandonné, il y aura deux, trois prêtres autour de lui, dans la montagne. Mais il a sauvé l'église du Tonkin. Ça a été un grand vicaire apostolique, il a sauvé l'église du Tonkin. Il lui a permis, par un second souffle, de redémarrer, n'est-ce pas? C'est par ces statistiques qu'on peut se rendre compte, effectivement, du travail qu'il a exercé, hein, en extrayant, n'est-ce pas, son œuvre à travers ses lettres. On constate, effectivement, comment il a pu sauver cette église. Il a joué le grand jeu, mais admirablement bien. Et évidemment, cet évêque a vu mourir, avant qu'il meure lui-même dans la montagne, persécuté, exilé, il a appris la mort de plusieurs de ses prêtres qui ont été martyrisés, mais atrocement martyrisés. Les tortures vietnamiennes, comme les tortures chinoises, c'est quelque chose d'épouvantable. Le bienheureux donc Saint Jean-Louis Bonnard, lui, est mort décapité, mais il n'a pas eu... On ne lui a pas appliqué les tenailles, les fers, etc. C'est le père Mathevon à qui on a appliqué, par exemple, les tenailles. Ça dépendait des mandarins. Et pour vous dire à quel degré la cruauté, le père Mathevon en arrivait à dire, c'est vrai, dans ces tortures, finalement, il vaut mieux la tenaille chaude que la tenaille froide. Pourquoi? Parce que la tenaille chaude, c'est gros outils, on rougit, n'est-ce pas, on vous met ça au muscle et puis on tourne. Et évidemment, donc avec la chaleur, disait, les muscles cèdent plus rapidement. Mais quand c'est à froid, c'est terrible parce que ça décolle progressivement. Et il faut le savoir parce qu'un jour où j'ai pris un ouvrage comme ça sur ces missionnaires, n'est-ce pas, ces martyrs, C'était aux facultés catholiques et le prêtre qui tenait, je lui rends le livre, je lui dis écoutez, il est dans un état lamentable cet ouvrage, il est remarquable, il y a de belles planches, c'est les martyrs. Ah oui, il me dit qu'est-ce que c'est? Alors il regarde, il jette un œil, il me dit qu'est-ce que c'est? Je lui dis oui, bah, c'est les prêtres catholiques, les missionnaires catholiques martyrisés par au Tonkin, là en Asie, et puis tous ceux qui sont morts aussi en Chine, etc. Il me dit ah, mais je croyais que c'était des peuples pacifiques. Alors vous savez, ce brave prêtre, à son âge, 65 ans, 70 ans, de dire des choses de genre, ça m'a paru aberrant, enfin, complètement aberrant, bibliothécaire, hein, je me suis dit. Et ça m'a paru absolument surréaliste, une remarque pareille. Eh bien oui, c'est absolument atroce. Je vais venir en Chine dans un moment. Donc voilà cette chrétienté, cette chrétienté du Vietnam et du Tonkin. Cette chrétienté du Vietnam au 19e siècle. Si on se transporte en Chine... La Chine, c'est différent. Torturé, oui, mais c'est un empire immense. Et vous savez, avant que les édits impériaux soient appliqués par les mandarins, il y a des vice-rois, il y en a qui sont chrétiens. Alors, d'un côté comme d'un autre, bon an, mal an, on arrive à s'en tirer, là aussi, de temps à autre. Malheureusement, sur la fin du siècle en Chine, je vous parle des événements les plus caractéristiques, bien sûr, parce que c'est trop vaste, surtout pour une conférence. Et il y a en 1900 la fameuse révolte des Boxers. Les Boxers, c'est des Chinois xénophobes qui sont entraînés dans des groupes qui s'appellent la société des points de concorde. Et ils apprennent à cabosser, quoi. Ils s'entraînent et ça s'appelle et c'est les boxeurs, d'où Boxers. Et partout, alors c'est des bandits, c'est des véritables. Partout où ils passent, ils pillent, ils massacrent. Mais ils massacrent les Européens, mais les chrétiens. Chinois, bien sûr, aussi, des familles. Et ils sont parfois beaucoup plus durs avec leurs propres concitoyens qu'ils ne le sont parfois avec les missionnaires. Mais c'est quand même atroce. Cette révolte des boxeurs entraîne des atrocités épouvantables. Cette révolte des boxeurs est connue. Il y en a une qui est beaucoup moins connue. C'est une révolte qui s'est produite à... Excusez-moi, je suis obligé de prendre ma note parce que j'ai oublié le nom. C'est pas Nanchang. C'est absolument pas Nanchang, c'est... Bon. Attendez, les chrétientés du... Voyons voir en Chine... Bon, il y a les fameuses... Oui, j'en ai oublié une aussi, les fameuses émeutes de Tien Sinh en 1870, atroce aussi. Bon, eh bien, j'ai oublié le nom. Bon, c'est un... Peu importe. Révolte, tout d'un coup, donc il y a une école des frères, des écoles chrétiennes. Et j'ai trouvé le document d'ailleurs... ah ben voilà, évidemment. J'ai ça sous la main. Je vais vous le retrouver tout de suite. Et si, c'est ça, c'est la tragédie de Nanchang. La tragédie Nanchang, pas de problème. Donc justement, à Nanchang, il y a une école des frères maristes. Et ces frères maristes, alors le responsable, le frère Vermorel de cette école, écrit à son supérieur à Rome. Il écrit, n'est-ce pas, que... Eh bien, il a du mal à respecter sa règle. C'est vrai qu'il porte la croix, dit-il, sur une soutane. Ça représente quelque chose, mais il faut bien vous dire qu'effectivement, tous les jours, c'est pas facile, mais je prie le ciel de... Bon, voilà l'école, voilà tous les progrès que nous avons faits. Une lettre, d'ailleurs, très touchante quand on connaît la suite. Cette lettre, il la met à la poste, elle part. Quelques jours plus tard, bruit dans Nanchang. On vient les avertir, frère, il faut partir très vite. Les cinq frères... prennent rapidement parapluie-chapeau, des habitudes du garçon, bon, et puis s'enfuient. Ben, ils ne savent pas par quel côté passer. Alors il y en a un qui dit on va peut-être passer par le cimetière et sortir de la ville, aller de ce côté. Et puis on dit non, 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 on va prendre la rue là. Par quelle fatalité ont-ils pris cette rue? On n'en sait rien. Et ils enfilent cette rue. Et ils sont immédiatement, évidemment, pourchassés par une foule qui, haineuse, hurle, vocifère, leur balance des cailloux. Et le supérieur, le frère Vermorel, se dit « faut que je fasse quelque chose ». Alors, il laisse prendre de la distance aux quatre autres frères. Et puis lui, il ralentit de façon à se rapprocher de ceux qui arrivent derrière et se dire je vais pouvoir les calmer. Ou il se dit si je les calme pas, au moins ils vont me taper dessus, ils vont me massacrer, mais au moins les autres auront le temps de partir. Bon, alors effectivement, et puis bon, on peut pas discuter. Il est piétiné, coup de poing, etc. Quand la foule est passée, il y a un corps qui gît dans un bain de sang. Et il se précipite à travers les quatre autres. Les quatre autres sautent. Il y a un lac qui saute dans un navire. Ils vont donner quelques pièces. Hein, qu'entre le batelier voit arriver cette foule hurlante, il dit ouais, moi aussi je risque d'y passer. Alors il refuse d'embarquer les frères. L'acheter. Les frères ne savent pas quoi faire, se jettent à l'eau, c'est un lac pas très profond, et puis ils sont là. Et tout autour, la foule s'installe, se met à hurler, et ils jettent des briques, des pierres, et progressivement, les frères, les uns après les autres, s'effondrent dans le lac, dont l'eau finalement progressivement rougit. Atroce. Là-dessus, eh bien, au moment où le martyr est annoncé à Rome, le pape Pie X a reçu le supérieur général. Le supérieur général reçoit la lettre du frère Vermorel qui lui dit que tout va bien. Alors quand on lit ça, c'est bouleversant. C'est bouleversant de voir cette lettre qui arrive. Et après, tout va bien. J'essaye de faire des efforts. Ou le frère dit, j'essaye de faire des efforts pour que la croix que je porte et que mon comportement corresponde. Il vient de mourir martyr. Hein, et s'est sacrifié pour les autres. C'est vraiment impressionnant. Bon, voilà évidemment quelques exemples. Évidemment, ce soir, vous avez peut-être évidemment envie de dormir tranquillement, donc pour concernant ces choses-là, je vais m'arrêter, mais il faut savoir qu'il existe une torture qui s'appelle la torture des sans-plaies. Alors très souvent, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, il y en a qui tuaient avant. Ils s'arrangeaient, on payait, on tuait avant. Bon. Alors, voilà, donc finalement, pour ces chrétientés, au XIXe siècle. Nous arrivons au XXe siècle. Au XXe siècle, les choses changent. À savoir que, finalement, progressivement, les chrétientés qui marchent bien, qui fonctionnent bien, les missionnaires, avec les moyens de transport, avec, finalement, le fait que l'Afrique se rapproche par là de l'Europe, etc., et bien progressivement reviennent en France. Et en revenant en France, et bien qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient les nouvelles méthodes de pastoral, scoutisme, cœur vaillant, âme vaillante, croisade eucharistique, Jacques et compagnie. Et sans jeu de mots d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils repartent là-bas en mission et ils créent ces mouvements, sans savoir que ces mouvements de laïcs, pour un certain nombre, sont déjà piégés. Et progressivement, évidemment, eux aussi vont, ayant copié ces nouvelles méthodes pastorales, les missions vont être emportées aussi par le militantisme laïque qui est incontrôlé, mais qu'on ne contrôle pas à l'époque et qui ne savent pas contrôler parce qu'ils ne voient pas, évidemment, que les mouvements sont minés. Ce qui va, sur le plan, sur le lieu, entraîner une dynamique différente au niveau de la mission. Une dynamique différente, d'autant plus qu'après la guerre, le discours va changer. Je viens de me rendre compte, subrepticement, il y en a tellement à dire, que je viens de faire un oubli très grave, surtout à Lyon, c'est l'Océanie. Je suis désolé, mais j'ai oublié complètement l'Océanie au XIXe siècle. C'est les Lyonnais qui ont évangélisé l'Océanie, avec la congrégation des Pères Maristes et le Père Colin, avec Monseigneur Bataillon, Saint-Pierre Chanel, je suis impardonnable. Je suis absolument impardonnable. Avec Monseigneur Pompallier, qui est parti en Nouvelle-Zélande, qui est un héros national. C'est un Lyonnais, Monseigneur Pompallier. C'est un héros national en Nouvelle-Zélande. Et le père Rosier, qui est un spécialiste de ces questions-là à Lyon, me disait, vous ne pouvez pas savoir ce que l'affaire Greenpeace a détruit, a détruit l'image du français dans le sentiment national. Mais il m'a dit, il garde toujours une grande admiration pour Monseigneur Pompallier, même les protestants. Un travail remarquable, cet évêque, remarquable. Il faut que je fasse un tour rapide quand même. Je peux pas passer sur l'Océanie, sinon à la sortie, je vais en être malade de toute la nuit. Saint-Pierre Chanel, c'est Futuna. Saint-Pierre Chanel meurt massacré d'ailleurs par la haine antichrétienne. À Futuna, à Wallis, c'est Monseigneur Bataillon, une véritable théocratie qu'ils font, une véritable réduction à échelle du Nil, un travail remarquable, Bataillon. Et bien, c'est une église qui a tenu et qui est vivante. Hein. Bien sûr, du côté des îles Gambier, Sandwich, c'est les Sacré-Cœur de Picpus, les frères, les prêtres de Picpus, qui vont, et il y en a un bien sûr, un autre Lyonnais qui évangélise, le premier, Monseigneur Rouchouze, de la région de Saint-Étienne. Monseigneur Rouchouze, remarquable, il arrive, on supprime toutes les idoles, immédiatement, une véritable théocratie. En peu de temps, les naturels sont convertis, se convertissent, et tout d'un coup, on va se développer chez ces gens-là une chrétienté qui fait penser aux chrétientés d'Amérique latine quand les Espagnols arrivent. Hein, ils sont touchés par la grâce, ce sont des hommes qui sont bons, doux, qui se convertissent avec une facilité remarquable et une chrétienté fantastique. Alors tout le monde concourt, alors on fait de grandes processions, on construit des églises, enfin c'est pareil à Wallis, mais c'est un peu plus dur à Wallis parce que là-bas, du côté de l'Océanie centrale, il y a les protestants. Il faut se battre avec les protestants. Les protestants, les presbytériens, les wesleyens sont pas des plus tendres dans le secteur. Et d'ailleurs, les maristes ne les ménagent pas. Mais la propagande protestante est toujours la même dans le secteur. C'est amusant de lire les documents, les lettres des missionnaires, de comparer et de voir quel est le discours des protestants, la propagande protestante. C'est les croisades, l'inquisition, c'est ça l'église catholique, c'est des papistes, c'est l'affaire des indulgences, c'est on toujours le même discours, toujours. Et puis on va regarder ce qu'ils sont, et puis ils sont des idolâtres, ils adorent un homme, n'importe quoi. Hein, toujours le même discours. Alors les missionnaires, connaissant parfaitement évidemment la chanson, adaptent leur catéchisme à cette propagande. Et progressivement, évidemment, ils gagnent. Bon, alors voilà cette. Alors un des grands derniers missionnaires de ce secteur là-bas, c'est Monseigneur Poncet au XXe siècle, Monseigneur Poncet à Wallis. Monseigneur Poncet à Wallis qui a démissionné vers 1970 pour l'âge. Pour âge, n'est-ce pas, qui a fait là aussi lui un travail remarquable. D'ailleurs, qui a assumé la responsabilité d'une partie de, disons, la protection des habitants de Wallis pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il avait pris l'option gouvernement de Vichy. Ça n'a pas traîné. Le général de Gaulle a envoyé l'amiral d'Argentlieu. Argentlieu est arrivé là-bas. Argentlieu était très correct vis-à-vis de Monseigneur Poncet, mais il a dit c'est terminé. On vire le résident qui est pétiniste, on en met un autre, maintenant vous obéissez. Poncet était obligé de s'incliner. Voilà Monseigneur Poncet. De l'autre côté, du côté de la Nouvelle-Calédonie, c'est pareil, la Nouvelle-Calédonie est une mission aussi mariste qui se développe très tôt. Il faut ne pas oublier d'ailleurs qu'il y a aussi les femmes qui sont parties là-bas, et notamment, ces pauvres femmes, je les ai oubliées aussi dans ces missions, il y en a trop à dire. C'est les SMSM, hein, la société missionnaire des sœurs de sœurs maristes, n'est-ce pas, missionnaires. Et notamment, une des premières qui est partie, c'était une laïque, Françoise Perroton. De Lyon, qui est partie là-bas, une femme courageuse. Le capitaine de vaisseau est venu se présenter, qui était converti, qui était un catholique, et lui a dit, bon, bien, voilà, je veux partir là-bas en mission. Il a été tellement étonné et impressionné qu'il l'a accepté à son bord. Ça a été très difficile, son acceptation par Monseigneur Bataillon est là-bas. Pourquoi ? Si on s'en tient aux faits extérieurs, on va dire, oh, ces missionnaires étaient misogynes, c'est pas vrai. Il y a les protestants. Et les protestants seraient tout contents de pouvoir salir un missionnaire en disant, regardez, il y a des femmes qui viennent, on ne sait pas trop ce qui se passe. Je ne vais pas plus loin, mais vous m'avez compris. La propagande protestante, à ce moment-là, aurait été. C'est pour ça qu'il l'a tenu très éloigné. Alors, il y en a qui ont dit, mais regardez, il est dur. Non. Il a pensé d'abord au bien de l'Église catholique, avant tout. Et puis après, bon, après, quand elles se sont constituées en ordre missionnaire, c'est différent. C'est des religieuses, donc là, c'est différent. Mais une laïque arrivée, c'était pas forcément très bien vu. Et alors, évidemment, il y a eu des conflits interminables de juridiction. La supérieure de la congrégation en France décrétait que ces sœurs maristes devaient être cloîtrées. Alors, il y en a qui lui ont fait comprendre que cloîtrées en mission, ça ne servait pas à grand-chose. À la limite, elles n'étaient pas là pour ça. Il n'y avait qu'à envoyer un carmel ou autre chose, mais enfin, c'est pas loin. Mais il faut la clôture. Alors du coup, il y en a qui sont partis, qui ont dit, bon, on n'est pas venu là pour être derrière une clôture, on est d'accord, mais enfin, si on est voulu derrière une clôture, on était en France. Hein. Ici, on ne verra même pas le paysage, ça n'a aucun intérêt. On est là pour évangéliser. Hein. Bon, voilà, ça c'est des petites histoires amusantes de lire. Ça n'entache en rien la valeur de l'œuvre des missionnaires. Ça, c'est les petits dessous de l'affaire qui sont amusants, les hommes étant ce qu'ils sont. Bon, je reviens au XXe siècle. Alors, pour revenir au XXe siècle, excusez-moi, ça paraît désordre, mais le sujet est trop vaste. Et je ne pourrais même pas vous dire tout ce que j'avais prévu de dire. Et alors, du côté, au XXe siècle, quand je reviens en Asie, ce qui est important, c'est l'arrivée des communistes. Lorsque les communistes arrivent en Asie, eh bien, ils vont évidemment reprendre la lutte anti-religieuse, anti-chrétienne des mandarins, en reprenant très souvent les mêmes accusations d'ailleurs, mais au nom évidemment de l'idéologie marxiste, l'idéologie communiste. Et là, c'est absolument atroce. Les persécutions. Je vais vous citer quand même quelques cas, je terminerai là-dessus pour ces persécutions et je conclurai sur le déclin de la mission en vous présentant, je terminerai sur un exemple typique de missionnaire complètement inculturé. Bon, alors je vais prendre deux ou trois exemples. Un exemple en Chine, Monseigneur Valentin. Monseigneur Valentin, évêque du Tibet, premier évêque du Tibet, arrêté à l'âge de 71 ans par les communistes. Il est arrêté, mis en prison. Sorti de prison, il passe devant un tribunal populaire chinois. 4 heures. Pendant 4 heures, insulte de la foule, crie, injure, et puis de la part des soldats, de la soldatesse qui est autour de lui, coup de crosse sur le visage, gifle, crachat, coup de pied. Vous imaginez, un homme de 71 ans. Ils sont obligés d'arrêter le problème. Ils sont obligés d'arrêter au bout de 4 heures. Il est prêt de défaillir. Ils ont peur, évidemment, qu'il meure. Ça serait embêtant, quand même. Bon, alors, on le remet en prison. En prison, on le met dans une prison quasiment dévêtue. Une prison où il peut à peine tenir debout. Où il tombe dans un tel état de délabrement, d'anémie et tout, qu'il est prêt de mourir, qu'il le transfère dans une autre prison. Là, il se fait reconnaître, il le transfère en civière, il se fait reconnaître à une religieuse qui immédiatement alerte les instances internationales. Alors là, évidemment, ils arrêtent le procès, ils lui font passer la frontière sur une civière avec un drap dessus. Comprenez, il ne fallait pas que les autres voient les bienfaits du paradis communiste et du grand bond en avant et de la révolution culturelle maoïste. Et il est venu mourir, il a été soigné à Saint-Jean-de-Dieu, il a été soigné à Paris et il est mort quelques années plus tard. Et plus tard, il a été reçu par le pape, d'ailleurs. Bon, ça, c'est le cas de Mgr Valentin. Autre cas, le cas qui, j'allais dire, touche une famille plus près, puisqu'il s'agit d'une famille lyonnaise, le père Amédée Benoît. Le père Amédée Benoît est mort, assassiné brutalement par le Viet Minh en 1954, excusez-moi. 1954, il revenait, aumônier militaire, il revenait d'un enterrement et il ramenait le cadavre sur une civière. Et à ce moment-là, le Viet Minh surgit, quelques soldats du Viet Minh surgissent, et le père Benoît dit, vous inquiétez pas, je vais discuter avec eux. Peut-on discuter? On ne discute pas avec des gens comme ça, enfin, des gens qui ne discutent pas plutôt, excusez-moi. Il voit le père surgir, il veut dire deux mots, à bout portant, dans la poitrine, une balle. Le père s'effondre, il va dire quelque chose, une deuxième balle. Mort, arrête. Les autres s'enfuient, évidemment, et ce sont 4 religieuses qui vont venir chercher son cadavre. Ils étaient là. Ils ont voulu les chasser. Elles ont dit, c'est simple, tuez-nous ou laissez-nous emporter le corps. Ils ont quand même été impressionnés, ils n'étaient pas complètement dénaturés. Ils ont laissé emporter le corps. La sœur de ce prêtre est encore vivante. Et donc voilà un cas tragique, bien sûr. Autre cas tragique, atroce, dont d'ailleurs le responsable est encore en vie, c'est en Corée du Nord, le maréchal Kim Il-sung. Le maréchal Kim Il-sung est encore dirigeant de la Corée, un dictateur, un barbare, un Staline coréen, si vous voulez, un Staline coréen, et qui, lorsqu'il est arrivé, donc c'est dans en 50, c'est ça, il y a eu la guerre de Corée, eh bien, il récupère tous les Européens qu'il peut trouver, les chrétiens bien sûr, et il leur impose ce qu'on a appelé la fameuse marche à la mort du maréchal Kim Il-sung. Une marche à la mort, une marche forcée sur des centaines de kilomètres. Et ceux qui ne pouvaient plus marcher, ils étaient abattus au coin de la rue, au coin de la route. Et il y a une religieuse, une provinciale, sœur Audouard, des sœurs Saint-Paul de Chartres, qui avait 71 ans, qui était provinciale là-bas. Elle a participé à cette marche, maladie de cœur, etc. Elle leur a demandé, elle a supplié que ses amis autour ont supplié d'arrêter. Et le maréchal Kim Il-sung a répondu qu'il marche jusqu'à la mort, jusqu'à en mourir. Et effectivement, au bout d'un moment, n'en pouvant plus, Les soldats ont dit on va s'en occuper, on va s'en occuper. Et aux autres, partez, 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 on va s'en occuper. Et tout le monde était parti. On a pris la religieuse, à bout portant dans la tête une balle, et on a balancé le cadavre sur le bord du précipice. Voilà. voilà, c'est quelques exemples. Bon, je voudrais finalement arriver maintenant, essayer de débroussailler l'aspect, arriver en conclusion à cette, ce déclin de la mission. Pourquoi la mission décline ? Tout ça pour deux raisons, deux grandes raisons. D'une part, par la perte de la foi et la perte, de l'esprit missionnaire dans l'Église elle-même, et d'autre part, la dégradation de la foi dans les pays, dans les pays de vieille chrétienté comme la France. Si vous prenez les familles qui furent des familles qui ont donné des missionnaires au XIXe siècle, ce sont quasiment plus de 50% des familles paysannes. 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 enfants. Et 3 ou 4 qui étaient missionnaires. Une foi extraordinaire. Et comme aujourd'hui, la foi ayant baissé, n'étant plus transmise, il n'y a plus de générosité. Et la communauté de base essentielle dans le christianisme, c'est la famille. C'est la famille, c'est la famille. Donc, évidemment, à partir du moment où les familles ne suivent plus, il n'y a plus de générosité, il n'y a plus de missionnaires, bien sûr. Mais en même temps, il y a eu simultanément l'abandon de l'esprit missionnaire dans l'Église elle-même. Un missionnaire que j'ai eu au téléphone, un ancien missionnaire, qui ne veut plus d'ailleurs qu'on l'appelle père, puisqu'il a quitté l'Église, je ne peux pas dire qui c'est, m'a dit au téléphone, mais monsieur, nous avons fait 68, avant 68, nous, dans les séminaires, bien avant. Il m'a dit, c'est tout de suite après la guerre. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été formés par des gens qui, eux-mêmes, n'avaient quasiment plus la foi en ce qu'ils enseignaient. Il me dit, vous comprenez, moi je suis rentré, j'avais effectivement la foi, mais quand j'ai vu que mon maître des novices... soi-disant se donner la discipline, mais que la discipline elle était à côté, elle n'avait pas bougé de place, et puis que mes camarades, au signal le soir, on se donnait la discipline, mais ils tapaient tous sur l'oreiller, et puis ils attendaient qu'ils ne viennent pas, il dit, moi je croyais, il dit, à ce moment-là, il dit, il y a des tas de choses qui sont tombées, il dit, vous comprenez, quand on est en face de soi, des choses de genre, eh bien, il dit, c'est fini, on se révolte, et c'est vrai, il est complètement révolté, mais alors complètement révolté, et c'était un jésuite, un type intelligent. Il m'a dit, moi, vous comprenez, aller parler de Saint Thomas, aller parler de tout ça aux Africains, etc. Non, fini, faut abandonner tout ça. Bon, alors il y a cet aspect, bien sûr. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a les mouvements laïcs, bien sûr, puisque les mouvements laïcs sont générateurs très souvent, comme la JOC, de contestation et portent en eux-mêmes, parfois, dans ce militantisme chrétien, un germe des dérapages, il y en a eu des dérapages. Et c'est vrai que ce militantisme, pourtant, c'était censé apporter une formation complémentaire, ça n'a rien apporté. Ça a apporté très souvent, d'ailleurs, que la contestation, justement, que la contestation, c'est là le malheur. Bon, il y a d'autres causes, bien sûr. Il y a des missionnaires eux-mêmes qui pensent qu'il faut absolument rénover l'esprit de la mission. Et c'est le cas, bien sûr, en Inde, du père Jules Monchanin, un Lyonnais, qui part là-bas et qui, imitant, pousse la méthode de Charles de Foucault plus loin que Charles de Foucault, je vais monter un ashram, c'est-à-dire un couvent indien, dialoguer avec un sage indien et prier avec lui dans ce couvent, dialogue interculturel, et prier la Trinité et contempler la Trinité ensemble pour convertir l'Inde. Ouais. Alors il y a ça. Et il y a aussi, bien sûr, cette idée d'inculturation absolue chez certains qui fait que, qu'est-ce que l'inculturation ? C'est un mot récent qui a été inventé, qui signifie une chose ancienne d'ailleurs, mais ça dépend, excusez-moi, ça dépend la définition qu'on lui donne. Moi, je vais lui donner une définition traditionnelle, à savoir se mettre dans une culture, mais accepter que ce qu'on peut accepter, c'est-à-dire respecter le mode de vie des Indiens, comme ont pu faire des Espagnols, mais supprimer les idoles, leur religion, leurs croyances, et apporter le christianisme dans son intégralité. Je veux bien, c'est se mettre dans une culture, respecter les aspects qui sont tout à fait respectables, qui n'ont rien de religieux, mais balancer tout le reste. Pour certains, l'inculturation, ça va beaucoup plus loin. Parce que l'inculturation, aujourd'hui, comme m'écrit un missionnaire au Japon, à Taïwan, qui encore est resté droit, voici ce qu'il m'a écrit dans une de ce qu'il m'a mis dans une de ses lettres. Je vous lis, ça vous donnera la mesure. Que devient notre chrétienté de Taïwan ? Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne progresse ni en nombre ni en qualité. Pourquoi l'enrichissement réel de la population produit-il la soif d'argent avec toutes ces misères morales ? Les stratèges apostoliques d'Orient et d'Occident visaient tous les évêques, les cardinaux, etc. Au nom des ignoreka, on prenait l'acculturation chinoise, c'est-à-dire la mise en valeur des coutumes ancestrales. Les fruits en sont amers. On sacralise les fêtes chinoises, fussent-elles entachées de superstition, mais on banalise les fêtes chrétiennes, Toussaint, Assomption. On fait la grande prostration devant les cadavres, mais on se refuse à faire la génifection devant le Saint-Sacrement. Certes, on ne crache pas sur l'électricité, toutes ces annexes, pourtant d'origine étrangère. La crèche exige l'arbre de Noël, et même le Père Noël. On fait enfantillage, je veux bien, mais la foi n'y gagne rien. Avoir certains enterrements catholiques, les païens pourraient dire « À quoi bon nous faire chrétiens, c'est eux qui nous singent maintenant ?» Notre jeune église n'a pas pour les superstitions cette allergie instinctive des vieux chrétiens du continent qui faisait abandonner les coutumes ancestrales en toute lucidité. La logique voudrait que, valorisant la culture chinoise, on ait du respect pour les cultures des autres races. Vénérant les ancêtres, on enseigne aux indigènes le respect des parents et des propres anciens. Hélas, il est vrai que nos minoritaires, les chebottes par nature, devant les puissances occupantes, en rajouteraient plutôt. Oui, il est dur, hein. Eh bien, il a été censuré. Et il m'avait écrit plus tard, parce qu'à la suite de ça, je lui ai demandé des éclaircissements. J'ai dit, vous m'intéressez prodigieusement. Alors, il m'a écrit une autre lettre. Il m'a dit, c'est la première fois que ma lettre annuelle provoque un dialogue. Et à continuer, j'ai dit, mais d'où vient finalement... Alors, ce qui est amusant, d'ailleurs, pour montrer que finalement, même le déclin de la mission n'est quand même pas identique partout, mais il a plus de 80 ans, alors il m'a dit, j'en ai pas pour bien longtemps. D'ailleurs, là, il vient d'avoir une attaque. Dans sa dernière lettre, il précise. Je lui demandais, d'où vient, qui est le responsable, finalement, de cette décadence dans la mission? Sa réponse, instantanément, me vient la réponse du diable. C'est bien abstrait, invisible à nos yeux humains, mais il ne faut pas oublier que jusqu'à la fin du monde, la lutte est notre sort. La victoire du Christ n'est pas encore totale. Si les humains étaient seuls en cause, comment expliquer ce parallélisme immédiat entre les campagnes destructives de la chrétienté en Europe et en Extrême-Orient? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est lui qui dit. Ce n'est pas un lefébriste. Enfin bon, je dis ça à dessein. Vous m'avez compris. Bien sûr, je peux pas tout vous dire, mais je vais vous montrer jusqu'à quel degré... Quel degré atteint cette inculturation absolue, n'est-ce pas? Monsieur l'abbé connaît bien cette image. Je n'ai pas eu le temps de la photocopier. Ça vient d'une revue, d'ailleurs, Peuple du Monde, Semaine Missionnaire Mondiale, avec le Christ ouvrant des chemins de dialogue. On est tout de suite en évidemment, condition. Ça, l'article s'appelle « Danser pour Dieu ». En utilisant la danse classique indienne, le père Francis Barbosa transmet son expérience et le message évangélique à ses compatriotes hindous. Alors il a passé un doctorat, tout ça sur les uns, c'est un hindou, c'est un prêtre, et alors, eh bien, il a décidé qu'il fallait, eh bien, inculturer complètement le message. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ben, vous allez voir, je vais vous le faire circuler, je vais vous montrer déjà de loin. Il est évidemment torse nu, avec des colliers partout, bien fardés, une espèce de panne colorée. Et puis alors il est là, il a un doigt comme ça, puis il est comme ça, alors il danse, il se tortille comme ça, et ça veut dire quoi ça? Il est ressuscité comme il l'a dit, hein, celui qui est là-haut, il est remonté là-haut, enfin celui qui a porté la loi, eh bien il l'a dit, il est ressuscité. Alors il se trémousse comme ça, alors il doit en avoir je sais pas combien dans sa besace, de trucs de genre, mais écoutez c'est aberrant. Hein, ça se passe de commentaires, le voilà là, hein, ouais, à moitié à poil là, et puis faisant truc, C'est du délire, hein. Je fais passer, parce que, voyez-le quand même, c'est un exemple extraordinaire. Je suis tombé dessus par hasard, mais il y a des hasards qui sont... Hein, c'est vraiment... Hein. Ça se passe de commentaires. Et ceci dit, c'est vrai que partout dans le monde, il y a une désaffection complète. Je prends encore un dernier exemple, et je m'arrête parce que j'ai trop parlé, et vous allez en avoir ras-le-bol. Mais il y a le père Néret, qui est un mariste. Le père Néret, qui est mariste, qui est mort... Maintenant, il est mort il y a quelques années de ça. Le père Néret est un savant spécialiste mondial des pirogues océaniennes. Il n'y en a pas deux comme ça. Et bien, ce père Néret formait des novices au noviciat à Nouméa. Il a écrit une lettre, plusieurs lettres, au père responsable, au supérieur général des pères maristes à Rome, en lui disant, voilà, ça ne va plus du tout. Dans le noviciat, des frères, des prêtres anciens enseignent que la Vierge Marie n'était pas vierge. Bon, je passe et le reste. Que finalement, on ne respecte plus la loi mariste, et ainsi de suite. Réponse, j'ai trouvé ça dans les archives à Rome. Réponse du supérieur général, ah oui, mais vous comprenez, ne soyez pas trop négatif. faut pas être négatif. Il y a tant de belles choses qui sont faites depuis le Concile, depuis Vatican II, voyez-vous, etc. Mais d'ailleurs, toute votre lettre n'est pas négative. Vous reconnaissez ceci et cela. Bon, ce qu'il reconnaissait, c'est qu'il n'y aurait pas de difficulté à reconnaître finalement que c'était positif pour un prêtre catholique. Mais pour le reste, il faut franchement avouer que c'était un peu gros. Mais après tout, c'était des points de détail parce qu'il y a tant de choses qui se font de bien. Alors, regardez, lui dit-il, le bien, mais regardez pas trop le mal qui se fait. Et deux lettres comme ça, deux réponses. Le jour où je pourrais sortir tout ça, plus tout le courrier que j'ai reçu concernant ces missionnaires, malheureusement, il y a des choses qu'on ne peut pas dire encore pour l'instant, mais c'est absolument effarant. Désaffection complète, liée finalement, et on la note, si vous me demandez une date, moi je vous dirais 1920, après la Première Guerre mondiale. Et lorsque j'en parlais, lorsque je faisais mes études de DEA, J'avais à ce moment-là comme professeur de DEA Bernard Lugan, et on en avait discuté. Il m'a dit, vous savez, il m'a dit, c'est vers 1920 que l'on constate une véritable chute, finalement, au niveau des missions et dans l'Église catholique. Et par rapport aux faits et tout, cela confirme. Ces nouvelles méthodes pastorales, cette façon de se triturer l'esprit dans tous les sens, de se culpabiliser, parce qu'on se culpabilise, on va pas évangéliser. Moi, je suis allé discuter avec un... très rapidement, là, et puis c'est fini, mais avec un oblat de Marie Immaculée. Je vais parler d'évangélisation, mais il a monté au plafond, il était en jean, là, avec les mains comme ça, là, il se tortillait, puis je lui dis, donc c'était un évangélisateur, mais j'ai cru qu'il crevait le plafond de la bibliothèque. Il dit, quoi, évangéliser, mais vous avez raconté quoi, mais qu'est-ce que vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Moi, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit un gros mot, peut-être que maintenant évangélisation c'est un gros mot, ça se peut, bon, mais bon, ça me paraissait bizarre. Une religieuse que j'ai rencontrée, je parle avec elle, alors je lui dis, bon, alors, parlez-moi de votre action missionnaire, de ce que vous avez fait, elle me dit, voilà, mais vous savez maintenant, alors je lui parle d'évangélisation, elle me dit non, elle me dit, vous savez maintenant, les Noirs, ils sont le temple de Dieu, on va pas les baptiser. Alors évidemment, vous imaginez quelle était ce que j'avais au bout de la langue, je lui dis, ma sœur, excusez-moi, mais qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Bon, c'est vrai, vous êtes une coopérante, en ce cas vous faites du social. Et beaucoup font du social, et beaucoup se culpabilisent d'évangéliser. C'est comme ça. Voilà, j'ai fait un tour d'horizon, mais alors, je ne suis pas spécialement satisfait, content, parce que c'est tellement vaste qu'on en aurait encore pour des heures. Alors, auriez-vous des questions? Oui.
Non. Justement, ça retombe tout à fait, il a déclaré comme quoi on avait pu convertir les gens.
Ah oui, voilà, c'est ça, c'est la dominante dans l'Église. Une inculturation absolue, on respecte l'autre. On est en contact avec l'autre, on dialogue, on cherche à le connaître et à s'enrichir mutuellement, chacun dans sa propre foi. On demande pas à quoi ça sert, mais c'est comme ça, et c'est vrai, c'est un discours qui s'est instauré et qui est admis par tout le monde. Et il y a une culpabilisation chez ces gens-là qui est terrifiante, ils sont malades à l'idée de parler d'évangélisation et autres. C'est un discours d'ailleurs qui correspond finalement à la génération de Mgr de Courtrai, etc. Beaucoup moins chez certains jeunes que l'on voit, à qui l'on discute, même qui n'ont pas, on pourrait dire, une option traditionnaliste ou qui s'affirment, etc. Mais qui disent, moi je suis catholique, j'affirme ma foi et si je pars évangéliser, je vais évangéliser. Alors tous ne sont pas comme ça, bien sûr, je disais, ce père, ce fameux prêtre qui est encore vivant à Taïwan, le père, ce missionnaire qui est venu ce soir et qui nous a parlé, on sent que véritablement, et puis à certains signes de ses diapositives, je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui avait la foi, il a parlé à un moment donné, il a parlé du précieux sang, il a un calice superbe d'ailleurs, c'est un prêtre qui dit la messe en chasuble, en surplis, il a les vieux surplis traditionnels, c'est un prêtre qui a la foi, on sent un missionnaire qui tient, mais c'est un missionnaire, c'est un missionnaire qui est qui a 70 ans par là à peu près, donc ceux qui tiennent là-dedans sont des petites unités, mais finalement qui progressivement vont disparaître, et puis vous avez toute une effectivement classe intermédiaire, etc., qui est absolument épouvantable. Alors parler avec des religieuses, c'est épouvantable à ce niveau-là, hein. Les religieuses, elles sont imbues, mais toutes celles que j'ai vues, que j'ai rencontrées, sont imbues de ces nouvelles théories, puis il n'y a pas moyen d'en démordre. Le dialogue, la règle de la mission, 1, le dialogue, 2, le dialogue, 3, le dialogue, enfin le dialogue, il faut que dialoguer. Faut que dialoguer, faut que ça. Et puis ils vont vers. C'est tout. Alors. Ah oui, c'est absolument effarant de voir ça. Alors, certains se posent quand même des questions en constatant que leur dialogue face à l'islam n'est quand même pas toujours constructif. Parce que quand ils reviennent dans les pays, en Algérie, ils n'ont pas le droit de porter la croix. Ils constatent qu'ils sont persécutés en Égypte. Alors là aussi, évidemment, il y a des religieuses qui reviennent. Il y en a une qui m'a écrit, et oui, je constate tristement que nous sommes devenus des parias, que les chrétiens sont des parias, etc., etc., etc. Hein. Mais il n'est toujours pas question de convertir l'islam. Alors, dans ce cas-là, il n'y a plus qu'à rester des parias. Bah oui, et puis c'est tout. Oui.
Il y a des pays dans le monde où des missions ont très bien réussi pour créer des chrétientés complètes
et qui tiennent toujours, tout à fait.
Ouais. Moi, je vois la différence entre les missions au cours du 16e et 17e siècle sur le Japon ou la Chine.
Oui.
Et en même temps, les Philippines sont devenues entièrement catholiques.
Ah oui. Ah oui, les Philippines, j'en ai pas parlé, mais ça, c'est
un pays entièrement catholique. Et dû aux missions.
Wallis, c'est pareil. A été comme ça. Alors, je ne sais plus où il en est, où ça en est maintenant, mais c'est vrai que c'est un pays qui a été entièrement catholique au départ.
Et le Canada français avait bien converti tout
le monde.
Et oui.
Voilà. Et en plus, non seulement ils ont été convertis, mais ce qu'on constate, bon, les Philippines, c'est une conversion évidemment de la période du patronat, et bien, ces Indiens dirigent leur pays, ces indigènes dirigent leur pays, ils existent toujours. Mais là où sont passés les protestants, c'était le sang, le massacre. La disparition, parce que les catholiques ont pratiqué le métissage, alors que les protestants sont racistes. Partout où ils sont passés, il n'y a pas un endroit où les protestants ne soient pas passés, où il n'est pas instauré des politiques racistes, des politiques de... etc. Et voyez comment ils ont pu se comporter partout où ils sont passés. Ils sont retirés de l'Inde, ils n'ont rien fait en Inde. Ils n'ont rien fait en Inde, les Anglais. Quand ils sont partis, ils savaient très bien que ça allait être le massacre. Ça a été le massacre, la partition de l'Inde en 1947. Épouvantable. Hein, et il y a des missionnaires qui étaient présents.
Les Portugais à Goa ont fait un pays chrétien.
Oui.
Alors que les Anglais dans le reste de l'Inde n'ont rien fait.
Rien du tout. Ouais.
Donc les Indiens de Goa étaient comme les autres. Donc ils ont pu être christianisés complètement.
Complètement. Et donc ça veut dire que les autres pouvaient être christianisés.
Mais
oui. Exactement.
Les divinités hindoues, tout le paganisme, naturellement. Si les formes missionnaires avaient été faites comme les autres.
Exactement, c'est-à-dire qu'il fallait de partout un pays chrétien qui colonise, un pays catholique qui colonise et qui pratique ce qu'ont fait les Espagnols, les Portugais, finalement, qui n'ont d'ailleurs jamais, au grand jamais, parce que ça, ce sont fait partie de la légende noire et en plus des idées qui traînent, même quand on veut être un tantinet sympathique, on dit « Ah oui, c'est vrai, ils ont fait de bon boulot, mais c'est vrai, ils ont fait pratiquer la table rase. » C'est pas vrai. Au début, ils ont pratiqué la table rase, mais très peu. Mais quand on voit Saint-Uribe, quand on voit Saint-Jérôme de Loisa, premier archevêque de Lima, quand on voit Saint-Uribe, quand on voit Sainte-Rose de Lima, quand on voit l'Apronéon, quand on voit tous ces saints, quand on voit tout ce qu'ils ont fait, ces dominicains, on vous dit « Tenez, je vais lire quelque chose quand même qui fait plaisir. » C'est rare de trouver ça. Vous savez bien que quand on regarde la télévision, les journaux, la radio, on regarde la télévision, on lit les journaux, on trouve toujours des absurdités. Et un article du Figaro Magazine du 10 octobre 92, un article qui est pas mal du tout, qui dit finalement « Qu'en pensent les historiens sur 1492 ?» Ce qu'ils disent, cet article est très court, mais ce qu'ils disent est quand même tout à fait remarquable. On souscrit à tout. Même Las Casas, il le déboulonne. Fabuleux. Hein. Il termine par ceci. En un siècle, rappelle l'évêque, c'est-à-dire Monseigneur Francisco José Arnès, le chargé par le CELAM, hein, qui a donc parlé de la commémoration. Il a dit, il faut quand même pas oublier que 2200 franciscains, 1670 dominicains, 470 augustins, 300 jésuites, 500 carmes, et j'en passe, sont venus. Hein, immédiatement après, en même temps déjà que les Espagnols, que les conquistadors, et après. Or, Hernán Cortés est venu là-bas avec 508 conquistadors. C'est pas 14 canons, 16 chevaux et 508 conquistadors qui vous balancent des populations, des millions d'individus. Ça a tout simplement été le fameux choc microbien qui les a décimés, d'autant plus que l'empire de Moctezuma était un empire dictatorial, voire communiste, comme on dit certains, qui écrasait, opprimait les Mayas, et lorsque ces blancs sont arrivés à la barbe, ils ont dit « c'est le dieu qui va nous libérer », ils sont mis avec eux, Parce que les Mayas, ils terminaient plus de 20 000 par an sur l'autel sacrifié. Et vous savez comment ça se passait, le couteau d'obsidienne. On prenait la personne vivante, on arrachait le cœur palpitant, on débitait le corps, etc. C'était ça. Et après, on vient vous dire ce que... On vient vous dire, on vient vous parler de la prétendue, du prétendu massacre des Indiens. Hein, quand ces soldats ont vu ces milliers de crânes et tout, ils ont balancé tout. Ils ont mis la croix, ils ont tout jeté. Ils ont mis la croix à la place. Hein. Et Moctezuma, c'était un empire décadent. Et si les Espagnols n'étaient pas venus, ils n'en existeraient plus aujourd'hui. Or, ils ont existé et la christianisation a été profonde, puisqu'en 1929, vous avez le soulèvement des Cristeros. Hein. Vive le Christ roi. Ce sont qui? Ce sont les descendants des Mayas, christianisés par les Espagnols, s'il vous plaît. Hein. Face à l'oppresseur Cay, comme vous voulez... un gouvernement de protestants, francs-maçons et anticléricaux. Je peux même le dire publiquement, puisque Jean-Marie Meyer, dans un bouquin d'histoire connu de tout le monde, qui n'est absolument pas un homme ni catholique, ni rien du tout, le dit lui-même dans son ouvrage. Les catholiques ont été massacrés et persécutés par un gouvernement de protestants, francs-maçons, anticléricaux. D'ailleurs, le ministre de l'Instruction publique avait un nom, c'était un Allemand. Je me demandais ce qu'il faisait là, d'ailleurs, celui-là. Bon, eh bien, voilà, ça a été le massacre du père Miguel Pro, tout le monde connaît ça, ça a été absolument atroce, là aussi. Et on vient nous dire, après, c'est une christianisation qui a été faite superficiellement. Alors, dans ce cas-là, si c'était si superficiel que ça, les Cristeros ne seraient pas révoltés, hein, ils ne seraient pas allés se faire tuer pour une religion qui représentait peu d'intérêt pour eux. Voilà, les Cristeros, vous les comparez aux Vendéens. Hein. Les comparer aux Vendéens, c'est pareil. Révolution spontanée d'un peuple, de la base, employons, n'ayons pas peur des mots, de la base, puisqu'on veut nous dire très souvent que c'est la base qui se révolte, et bien rarement, mais pour la première fois, réellement, effectivement, pour défendre sa foi. Toute révolution révolutionnaire est forcément préparée, vous le savez. Hein, alors que... Eh oui.
Dans les oui. missions portugais-espagnoles, les autorités religieuses font attention qu'il n'y ait pas de protestants ou de juifs.
Ah, bien sûr.
Oui.
Interdit aux protestants et on protégeait les Indiens. Et attention, hein, il fallait protéger les Indiens. Il y avait pire microbes et virus que la grippe, etc. Et on les protégeait, c'est vrai. Hein. Et d'autant plus que l'Espagne est un pays, c'est le pays catholique par excellence. Hein. L'Inquisition espagnole qui remet les choses en place avec Isabelle la catholique. Or, en Espagne, on a là, au bon sens du terme, la phobie de l'hérésie. Ah, attention, c'est pour ça que vous n'avez pas eu de protestants en Espagne, parce que c'est l'Inquisition qui a fonctionné, et remarquablement bien. Et ils n'ont pas eu de bain de sang, alors que nous, on a eu des bains de sang, des guerres de religion. Hein. Et bien, effectivement, là-bas, qu'est-ce qu'ils faisaient? Tout ce qui était possible et susceptible d'hérésie n'avait pas droit de presse. D'autres questions? Sinon, on en reste là. Merci.